Je me présente, je veux me montrer mon regard, mais mon visage, j'ai quand même gardé le masque. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, donc, je travaille je suis enseignante-chercheuse, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle l'URMIS, l'unité de recherche sur l'immigration et la société. J'ai fait ma thèse, j'ai eu la chance de faire ma thèse, moi, sur l'émergence de la question des discriminations au tournant des années 2000. Donc, pour moi, même la question, elle est même au-delà de 15 ans, même si, et je vais avoir un regard un petit peu décalé parce que je sais qu'il y a Olivier qui a beaucoup travaillé, qui est un fort compagnon de route pour vous et qui connaît spécialement la thématique par rapport aux centres sociaux. Moi, je voulais peut-être un petit peu travailler, quoi, pas travailler, mais avoir quelques petits éléments de réflexion sur les espèces d'aller-retour et cette espèce de politique en accordéon où à la fois elle est présente et à la fois on est toujours en train de poser sa légitimité, en fait, quoi. C'est comme si elle était en perpétuelle légitimation, délégitimation. Et voilà, et on voit bien, c'est à la fois une expérience que la plupart, quoique beaucoup des habitants que vous suivez, avec qui vous travaillez, que vous côtoyez vivent, et en même temps, toujours une difficulté quand même à aborder cette question, à pas la confondre avec d'autres ou pas. Donc il y a ce temps-ci, et après peut-être développer aussi ce que moi j'ai appelé la double illégitimité de la discrimination. D'une part, la légitimité de ce qu'elle est, de ce qu'elle fait, et l'illégitimité de son énonciation, voire de sa dénonciation. Et on est toujours un petit peu dans une espèce de à la fois hyper ultra proximité, et en même temps, on ne sait pas comment la prendre, et on ne sait pas depuis le. Un petit peu depuis le début, hein. Et c'est vrai que même si on prend dans la politique de la ville, par exemple, il y a eu énormément, énormément de diagnostics, comme s'il fallait toujours essayer de voir, poser un diagnostic avant de pouvoir œuvrer. Et on voit bien aussi, c'est ce que vous, la question que tu évoquais tout à l'heure, comment on passe, non pas du collectif à l'individuel, mais comment on passe de l'individuel au collectif sur ces questions. Et j'imagine que vous en avez pu aussi en discuter avec Julien. Talpin aussi hier, s'il est venu un petit peu présenter les choses. Sur ces allers-retours, hier, je me suis dit, oui, quoi, la lutte contre les discriminations, autant elle est sortie à la fin des années, à la toute fin des années 90, on peut la poser à l'intervention de Martine Aubry, 1er octobre 1998, qui, pour la première fois, aborde au Conseil des ministres cette question. Hein, c'est quand même. Donc, c'est comme ça qu'on a pu parler de l'invention de la lutte contre les discriminations, avec des premiers dispositifs qui se mettaient alors en place. J'en parle parce qu'on est un peu en espèce de retour, quoi. Ces premiers dispositifs, c'était quoi? C'était un groupe d'études et de lutte contre les discriminations, parce qu'il fallait connaître qu'est-ce que c'est, quel processus ça prend en compte. Donc, on crée un groupe d'études et de lutte contre les discriminations, et on crée un numéro d'appel. Le 114, qui était accessible, et quand elle est sortie, la question des discriminations, c'était uniquement sur la question des discriminations raciales à l'époque. C'était comment on passe d'une posture posée en termes dite d'intégration, où on était plus dans une normalisation des populations qui auraient un écart à la norme et qu'il fallait un petit peu aider, qu'on était dans une. Les politiques d'intégration étaient un petit peu posées en termes de handicap des populations, qu'il fallait aider par rapport à certains. Alors que la lutte contre les discriminations, c'était une inversion de la posture du regard, et on ne s'occupe plus des habitants qu'il faudrait intégrer, on ne sait pas quoi, parce que finalement, en plus, c'est toute la. Je vais pas revenir sur cette notion d'intégration, mais il y a toute une ambiguïté. Normalement, en termes sociologiques, l'intégration, c'est le contraire de l'anomie, c'est-à-dire on parle d'une société intégrée. Ce n'est pas un individu qui s'intègre à quelque chose, c'est quand il y a une société intégrée, c'est-à-dire qu'il y a des représentations communes, qu'il y a énormément. En fait, c'est la densité des rapports d'une société qui fait qu'une société est intégrée ou pas. Et tout au long des années 80-90, il y a ce fameux modèle républicain d'intégration qui a pris forme, qui a pris corps, qui a pris politique. Hein. Ça s'est vraiment passé dans les années 80 et 90, avec en 89 la première affaire du voile de Creil, 89, première fois que le Front National arrive au municipal. Et 89, le bicentenaire de la Révolution. Donc, une espèce de bain révolutionnaire, républicain, de c'est quoi être républicain, qui faisait suite à toutes ces questions sur qu'est-ce qu'être français dans les années 80. Donc, on voit aussi, c'est des allers-retours, c'est assez hallucinant quand on regarde un petit peu quand même notre temporalité un petit peu courte, et 40 ans, 50 ans de. Donc voilà, ces années 2000 où on passe de la question de l'intégration qui était entièrement centrée sur les handicaps des populations, pour aller vite, à c'est aussi un processus qui se passe avant tout, c'est un processus social, c'est le fonctionnement de la, c'est la, 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 le fonctionnement de la société, quoi. Porter le regard sur la discrimination, c'est porter le regard sur le fonctionnement qui contribue à produire de la discrimination, et plus sur les personnes qui en feraient les frais. Et avec un petit continuum aussi quand même entre intégration et lutte contre les discriminations, puisque la discrimination irait à l'encontre aussi des processus d'intégration et de l'intégration de la société. Donc on voit bien ce continuum. Donc ça, c'est tournant des années 2000, avec à l'époque une grosse difficulté à énoncer, mais de qui on parle en fait quand on parle des discriminés, avec une posture colorblind que l'on connaît bien, c'est-à-dire volontairement aveugle à la couleur, et avec toutes ces contradictions de comment on met une politique pour une population qu'il est illégitime de nommer en tant que tel dans un contexte en fait qui dans un contexte où la citoyenneté individuelle ou la citoyenneté où quoi. Finalement, comment prendre une question et comment nommer une question et comment faire en sorte qu'on puisse travailler une question qui, avec toujours cette accusation de mais oui, mais quand vous dénoncez, quand vous nommez, vous créez en fait vous créez la réalité. Et comment on fait avec quelque chose qu'on aimerait que ça n'existe pas, mais que pour décrire, en fait, on contribue en partie à faire exister, ou en tout cas à donner sens. Et en donnant sens, oui, on fait exister, mais c'est pas, on décrit, on ne contribue pas à cette réalité. Mais la description même de cette réalité était pas si facile que ça, et ça dès le départ. Ensuite, pour aller vite, il y a eu la. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces premiers outils, donc, c'était aussi un numéro d'appel gratuit, le 114, avec tout un traitement des plaintes individuelles, mais c'était aussi des lieux. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de terrain au MRAP, le mouvement contre le racisme pour la mixité entre les peuples, à l'époque, qui avait créé une caravane dite de la citoyenneté qui accueillait des personnes. Qui se disaient victimes, en tout cas, de discrimination. Donc, à la fois un effet à la fois cathartique que vous devez connaître aussi, c'est-à-dire un espace où les personnes peuvent venir raconter leur expérience, déjà sans qu'elles soient mises en doute, ce qui était déjà à l'époque assez. Et en même temps, un espace de traitement, mais qui restait sur l'individuel, avec une grosse difficulté déjà à l'époque pour l'association de passer du niveau individuel au niveau plus collectif dans la prise en charge. Et cette individualisation, elle s'est poursuivie aussi, notamment avec les outils institutionnels comme la HALDE, parce que la HALDE, c'est une très grosse approche très juridique. Et ça veut dire, quand on appelle la HALDE, il faut avoir des preuves, on sait tous le temps long, c'est aussi dans une inscription très juridique de la discrimination, qui est hyper importante, mais ça ne peut pas être, on ne peut pas en avoir une approche que juridique, tant elle est expérientielle, expérimentale, quotidienne. Et avec la HALDE, donc avec une forme visée juridique, une prise en charge individuelle et ce qu'on appelle aussi une universalisation, c'est-à-dire on prend tous les critères. Et avec cette universalisation, de prendre en compte tous les critères, on a un petit peu perdu en fait la discrimination que moi j'appelle raciste, mais ou raciale, ou en tout cas fondée sur l'origine réelle ou supposée ou la couleur de peau. C'est vrai que moi, je prends la... il faut faire une grosse distinction entre racisme et discrimination, mais c'est que moi, d'un point de vue théorique, j'aime bien appréhender aussi la discrimination en tant que racisme en acte. C'est-à-dire, pendant trop longtemps, on a pris le racisme uniquement dans sa visée, soit politique, Front National, soit strictement idéologique, croyance en l'inégalité, ou en tout cas des représentations très posées. C'est pas uniquement parler de discrimination comme non pas comme racisme mis en axe, c'est-à-dire on aurait une idée un logiciel raciste et puis on le mettrait en axe. Non, racisme en axe, c'est vraiment on réalise en fait. C'est ces actes de réalisation. Des rapports de domination et d'un ordre social inégalitaire et de situations inégalitaires qui, au bout du compte, arrivent à une inégalité de traitement dans l'accès à un logement, dans l'accès à une formation, dans le champ des possibles aussi, parce qu'on est aussi, en termes de réalisation, on est dans un rétrécissement du champ des possibles pour moi sur la question des discriminations. Et en même temps, pour en finir avec ce va-et-vient, quoi, ce micro, hein, vraiment, là, je fais à la grande louche sur comment ça s'est passé ces dernières années, mais je trouve ce qui est très, très étonnant, et tu as insisté sur prendre la discrimination comme un rapport de pouvoir, en fait, comme réalisation d'un rapport de pouvoir, et de ne pas se placer uniquement sur le point de vue individuel et moraliste. Or, c'est vrai qu'encore hier, je regardais un petit peu, je regardais plus attentivement cette campagne parce que j'arrête pas de voir cette campagne contre la LGBT. En fait, ma coloc est gay, ma fille est lesbienne. On est retour à SOS Racisme avec des majoritaires qui veulent protéger.
Ouais, même pas leur vie.
Avec la bienveillance des minoritaires qui seraient, voilà, qu'il faut tolérer. Déjà, voilà, moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de manifs autour de la manif pour tous. Et c'est vrai qu'il y avait un slogan que j'adorais, c'était « Je ne te demande pas mon avis, je te demande mes droits en ». Fait. Et la tolérance, il y a une espèce de moralisme teinté de bienveillance où on voit quand même, c'est toujours sous l'angle du majoritaire qu'on a la définition de la situation, en fait. Et la tolérance, effectivement, c'est des belles idées. Il faut, quoi, je ne dis pas qu'il faut être intolérant, il faut être tolérant. Mais je ne pense pas qu'on puisse baser une politique publique sur les discriminations fondées sur uniquement une approche morale et une approche fondée sur des bons sentiments. Donc, il y a toujours cette approche de moralisme, en tout cas, qui imprègne et qui rend difficile aussi la prise en compte de ces questions. Et sur ces allers-retours aussi, parce que là, je faisais un peu un parallèle avec SOS Racisme, sur l'antiracisme et sur la lutte contre les discriminations à l'heure actuelle, on a toujours un petit peu les mêmes recettes, avec la mise en place d'une plateforme, d'un numéro unique, le 3928 avec le 114. Et je pense que j'attends, hein, je ne suis pas Irma et je ne sais pas comment ça va se passer, mais pour moi, on va avoir un petit peu le même phénomène déjà de prise en charge hyper individuelle des questions, avec en plus que ça se passe au niveau, parce que le 114, ça implique aussi des associatifs, mais que ça se passe au niveau associatif, que ça se passe chez les délégués de la HALD auparavant et maintenant du défenseur des droits. La personne qui reçoit et qui reçoit en fait la plainte se pose en petit juge et est obligée d'aller chercher des éléments. Est-ce que ce que tu me dis, tu as les preuves? Est-ce que ce que tu me dis? Et il y a cette double contradiction en fait du traitement individuel en fait de la plainte quelle qu'elle soit. À la fois, il y a un effet écoute et cathartique, c'est-à-dire c'est un espace dans lequel je ne mets pas en cause ce que tu viens me raconter et ne serait-ce que pouvoir avoir un espace où tu viens me raconter ce que tu vis, c'est important que ça existe. Et en même temps, vu que ces espaces sont aussi des espaces de traitement, et ben pour le traitement, il faut une factualisation, il faut une preuve, et même pour les écoutants, on est en pleine contradiction là-dessus. On est toujours entre cette espèce d'hyper-empathie et en même temps en même temps, ce que tu me racontes, c'est du racisme, c'est pas de la discrimination, ou c'est illégitime, mais ça peut pas être pris en charge forcément dans le cadre de la loi. Voilà, je ne sais pas combien de temps, parce que sinon, ce que j'aurais pu un petit peu aussi dire, c'est peut-être les 5 dernières minutes sur cette difficulté entre l'illégitimité de la discrimination, on la voit, mais l'illégitimité de sa dénonciation, en fait, quoi. Je peux aussi, peut-être après, je pourrais aussi développer dans
Ouais,
la.
on va faire comme ça.
Hein,
Ça va.
ça, si ça vous
Super.
va. Ça va pour le temps ou
Super,
j'ai encore?
magnifique. Non, bah, du coup, comme ça, on a 15-20 minutes pour Christelle et ensuite Olivier, et on organise.
D'accord. Donc je continue un peu ou
Non,
j'arrête? J'arrête
on
là.
va reprendre après, oui.
Ok, bon ben
Merci
ça
beaucoup, Mireille,
marche,
d'avoir joué le
c'est un peu
jeu
lourd.
comme ça en direct. Voilà.
Mais voilà.
Sans nous connaître, sans. Voilà. Première... Donc, on poursuit avec Christelle.
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci. Merci à Mireille d'avoir.
Salut Christelle.
Ouais, salut. Ça fait plaisir de se voir les uns les autres. Merci d'avoir fait ce rappel un petit peu historique. Ça va me permettre d'enchaîner de manière, bon, pas chronologique, mais d'aborder d'autres choses que je suis sûre tu aurais aimé dire et que, voilà, on ne peut pas tout dire en 20 minutes. Alors, je vais repartir du déni constant que tu as évoqué. Moi, je trouve que c'est vraiment à la fois une question d'actualité, mais maintenant, ça devient une question, un constat historique et concomitant à la lutte contre à la naissance de la lutte contre les discriminations, en même temps que naissent les mouvements de contestation des phénomènes de discrimination contre les personnes, ben, naissent les mouvements de déni de l'existence de ces discriminations. En fait, là, on a un truc qui est permanent, qui prend des formes plus ou moins différentes au fil des années. Mais alors, on note par exemple un certain nombre de polémiques qui visent par exemple à empêcher la mise en place des diagnostics. Donc, tout le débat sur les statistiques ethniques, leur soi-disant interdiction par la législation française, c'est un truc assez étonnant. La loi française n'interdit pas de produire des statistiques sur les discriminations et pour produire des statistiques sur les discriminations, il faut pouvoir, dans les enquêtes, enregistrer l'origine des personnes, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur situation de santé ou de handicap. Et rien de tout ça n'est interdit. Ce n'est pas interdit, c'est en fait encadré et assez contrôlé par la loi informatique et liberté et aussi par maintenant le règlement général pour la protection des données personnelles qui est en œuvre, enfin en place depuis 2019, qui a pris la suite de la loi informatique et liberté. Donc ça, c'est un des exemples de polémiques régulières qui fonctionnent comme une rumeur dans l'espace médiatique, avec toujours l'épouvantail américain, on n'est pas comme aux États-Unis où il y aurait des communautés, le communautarisme. Bon. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est fait, je pense, intentionnellement pour casser les outils de mesure, parce que casser les outils de mesure des discriminations, c'est à la fois dire il y a un problème qui est réel, et les personnes qui dénoncent ce problème ne sont pas. En général, c'est des victimes hein, qui dénoncent ces personnes, c'est dire que ces personnes ne sont pas seules et c'est dire que ces discriminations, elles ont un caractère massif pour les personnes appartenant au groupe concerné par ces discriminations. Donc, c'est permettre aux personnes de faire face à l'argument contre elles qui serait de dire ben, c'est anecdotique. Bon, d'accord, ça lui est peut-être arrivé à elle, mais c'est pas si fréquent. Et donc, on va pas mettre en place tout un tas de dispositifs pour lutter contre. Voilà. Ou alors, c'est bon, il n'a pas eu de chance, il est tombé sur quelqu'un, un policier qui était un peu borderline. Bah, le problème, c'est que. Probablement, là on aimerait bien pouvoir en faire un peu plus des statistiques là, sur l'activité de la police, mais c'est pas facile, facile. Voilà, autre thème assez concomitant, enfin qui marche contre les statistiques ethniques, maintenant qui est nouveau, c'est l'islamo-gauchisme. Alors il y avait avant des personnes qui étaient elles-mêmes issues de l'immigration dans le milieu de la recherche, qui ont été des acteurs importants comme Saïd Bouhamama, Nassir Aghenif et plein d'autres, hein, je ne peux pas tous les citer, mais qui ont porté... qui se sont servis de leur métier de chercheur pour apporter une démonstration, pour faire la preuve de l'existence de ces discriminations, de leurs mécanismes, etc. Donc, eux, on leur a d'abord dit qu'ils n'étaient pas objectifs comme chercheurs en raison de leur origine. Puis, il y en a d'autres, des Blancs comme moi, comme Mireille et d'autres, Patrick Simon, qui... Éric Fassin, qui ont fait un peu le même type de travail avec d'autres angles, ben, nous, maintenant, on nous traite d'islamo-gauchistes, c'est-à-dire ces gens, soi-disant de gauche, qui feraient le lit de l'islamisme et sous-entendu du terrorisme islamique en faisant des statistiques de mesure des discriminations ou en écrivant, en faisant des recherches globalement sur le racisme et les discriminations. Ça, c'est une manière de casser les alliances en fait, entre les personnes discriminées et les personnes de la population majoritaire, donc non discriminées, mais qui disent « oui, oui, ils ont raison, là, les discriminés, ils affabulent pas ». Donc là, on casse les liens par ce type de polémique. Alors, je voudrais dire aussi que ce type de polémique, là, j'ai pris deux exemples, statistiques ethniques, mais on voit les mêmes choses se faire avec, par exemple, la théorie du genre. Il y a eu toute une campagne sur la théorie du genre qui serait, par exemple, un outil mis en place pour casser la culture française. Donc, par exemple, on voit des députés aujourd'hui qui font des propositions de loi pour empêcher l'écriture inclusive dans les administrations. Donc, le point E, à la fin d'un mot, la féminisation des noms de métiers, il ne faudrait pas parce que ça va casser la langue française qui donc souffre beaucoup dans son petit corps et dans son âme. Bon, je rappelle que la langue française n'a pas de système nerveux, elle ne souffre pas. Les personnes qui sont exclues, oui. Non, mais il faut rappeler des choses un peu basiques des fois parce que... il y a des députés, on ne sait pas ce qu'ils défendent en fait. Donc, on a le rejet de l'écriture inclusive, on a eu les fausses rumeurs lancées sur les théories du genre, donc, qui ont abouti à l'idée que, par exemple, les ABCD de l'égalité à l'école, qu'avait mis en place Najat Vallaud-Belkacem, c'était apprendre aux enfants comment se masturber à la maternelle. Non, c'était pas tout à fait ça, c'était lutter contre les stéréotypes de genre qui font intégrer, qui font qu'on intègre qu'un homme, il doit se comporter comme ça, ou une fille doit se comporter comme ça, et que donc il y a des choses qui lui sont interdites à elle. Et donc c'était lutter contre ces stéréotypes, c'était de la préhension, et on y est arrivé à des trucs complètement dingue sur la théorie du genre. Donc voilà, là, ça fait partie des exemples de déni constant qui accompagne ces luttes. Alors, du côté juridique, Mireille a parlé, vous avez tous évoqué en fait le début des années 2000 qui correspond à la transposition dans la législation française des directives européennes de lutte contre les discriminations et qui ont obligé quand même l'État français à mettre en place des dispositifs de lutte, notamment avec la HALDE, et à essayer de faire rentrer dans le droit du travail, en particulier des dispositifs de traitement des situations de discrimination. Donc traitement, ça veut dire à la fois accompagnement des victimes, prévention et sanction des auteurs de discrimination. Bon, et puis aussi mesure de l'évolution de la situation. Alors, c'est des choses qui sont en place depuis beaucoup plus longtemps pour l'égalité femmes-hommes. Donc, on en est à 30 ans à peu près de mesure d'inégalité de salaire entre les femmes et les hommes. Et on peut dire que, en dépit de l'empilement législatif sur l'égalité professionnelle femmes-hommes, on en est toujours à 30% de salaire en moins pour les femmes comparativement aux hommes, et à situation d'emploi équivalente, c'est plutôt 7-8% quand on contrôle par toutes les différences de diplômes, etc., de secteur d'activité. Bon, alors tout ça pour dire que vraiment, il est temps de passer à autre chose que des dispositifs d'incitation des entreprises à garantir l'égalité, à établir l'égalité professionnelle, parce que tout le temps que c'est pas contraignant pour les entreprises, ben, ça bouge pas. Et la contrainte, ça veut dire de la sanction si l'égalité elle est pas là. Je pense que là, vraiment, l'égalité professionnelle femmes-hommes est un exemple de choses qui n'avancent pas bien. Et en plus, ça, c'est le plus avancé. Parce que dans l'égalité professionnelle, selon l'origine migratoire ou selon l'orientation sexuelle, etc., là, les diagnostics, les bilans d'égalité, enfin, de situation comparée des populations que des entreprises doivent mettre en place, doivent faire, ces bilans de situation comparés, ils existent pour l'égalité femmes-hommes, ils n'existent pas pour les autres critères de discrimination. Donc, il y a des choses à étendre et qui sont, bon, même si on peut dire que ça n'avance pas bien, que c'est, au moins, ces bilans de situation comparés, ils obligent à du dialogue social dans les entreprises. Ils obligent les acteurs à regarder ce qui se passe, à voir que ça évolue pas et qu'il y a un moment, il va falloir que ça prenne des formes d'action différentes. Donc, ça, là, je pense qu'il y a je dirais, un domaine d'action possible en suivant ce qui a été fait pour l'égalité femmes-hommes dans les dispositifs, dans les entreprises, des choses à étendre pour les autres catégories de minorités. Bon, même si je reste sur ce diagnostic un peu pessimiste d'une faible avancée concrète, en fait, autre grand chantier, à mon avis, qui est quand même sur la table et encore devant nous, c'est la police. Là, c'est l'univers du très, très grand déni. C'est l'univers de l'absence et de la très grande difficulté de mener des recherches sur l'action de la police. La police est vraiment, en plus, bon, prise dans des injonctions paradoxales de, et nos gouvernements sont dans des choses compliquées à gérer, d'un côté lutte contre le terrorisme et de l'autre côté lutte contre, enfin, préservation de l'égalité et prévention des discriminations. Et là, il y a un truc, ils n'arrivent pas à sortir de ça. Bon, le côté lutte contre les discriminations, lutte contre le racisme dans la police, s'il n'y avait pas eu des mouvements comme le collectif Justice et Vérité pour Adama et tous les petits collectifs pour chaque personne victime qui s'étaient mis en place, là, on serait dans l'absence totale d'avancée. Et face à ce mouvement social qui part des familles des victimes, puisque là, il y a des morts, on n'aurait pas de discussion même sur ces sujets. Là, je crois qu'on a vraiment un grand chantier à continuer de porter et d'ouvrir. Alors, je voudrais essayer de... Alors, ça, c'est pour le côté violence policière à caractère racial. La police, sur la question de discrimination, elle est aussi, je dirais, mise en accusation par le mouvement féministe aujourd'hui, à travers toute la question des féminicides. Il y a ce que la police fait, et il y a ce que la police, alors là, on voit en termes de violence policière sur les minorités racialisées dans les quartiers, et il y a ce que la police ne fait pas, c'est-à-dire là, en termes de protection des femmes qui dénoncent des violences conjugales notamment, mais aussi de protection des enfants qui dénoncent des violences intrafamiliales et notamment parentales. Donc là, on a des femmes qui se déplacent dans les commissariats, qui disent « je suis en situation de danger » et elles repartent à la maison. On leur dit « on ne peut rien faire pour vous » ou « si vous déposez plainte, ça sera encore plus grave » et il n'y a pas de dispositif efficace pour leur mise en protection. Et donc, ben, on apprend 6 mois après que finalement, elles sont décédées sous les coups de leur conjoint ou qu'elles ont été, comme dernièrement, hier, je regardais le journal de 20h sur France 2 ou France 3, je ne sais plus, et on apprend qu'une femme a été balancée par la fenêtre du 8e étage par son conjoint, qui était déjà condamné pour violence conjugale, à 6 mois de sursis. Là, enfin, je veux dire, on ne comprend pas, quoi. Là, on ne comprend pas. Et d'un autre côté, la police, elle est aussi mise en cause, et ça, je trouve que c'est par le mouvement des Gilets jaunes. Ça, pour moi, c'était une bonne nouvelle, le mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est la France des villes moyennes, la France du milieu rural, qui s'insurge contre les inégalités territoriale, la pauvreté, et qui, en s'organisant en mouvement social, découvre les violences policières et découvre comment on couvre une manifestation dans les médias. Et pour moi, je suis voilà, d'origine paysanne, enfin, mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai grandi à la campagne. Je peux vous dire que quand on est à la campagne, le discours qu'on reçoit via les médias sur ce qui se passe dans les villes, les banlieues, ça ne peut que vous donner une image de gens qui sont, voilà, c'est ce que vous connaissez, les casseurs, etc. Donc, tous ces gens sont discrédités dans leurs actions, leur révolte. Là, c'est le monde, avec les gilets jaunes, c'est une partie du monde rural qui réalise que le traitement médiatique et le traitement policier des manifestations et des révoltes et des colères, c'est une politique d'État de répression. Et ça a fait changer de regard un certain nombre de personnes, en tout cas celles qui venaient du monde rural et qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, ont tout d'un coup découvert qu'il leur arrivait à eux, ben, quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Et ils ont découvert dans le même temps que c'est la même chose qui est arrivée aux banlieues depuis longtemps. Et là, il s'est créé des liens dans les mouvements sociaux assez inattendus, qui sont pour moi un peu des sources d'espoir, même si c'est très, très en sommeil ou très peu perceptible, mais des choses importantes dans le regard et la prise de conscience globale. Et dans les alliances possibles entre blancs et non-blancs, entre gens des villes, gens des campagnes, face à des systèmes de politico-médiatiques comment dire, qui tentent de mettre le couvercle sur ces révoltes et ces dénonciations qui mettent là en cause particulièrement la police. Et puis alors, dernier point que j'aimerais aborder sur cette actualité donc, de l'égalité, c'est la question de la liberté d'expression. Alors, dans la lutte contre les discriminations, bon, il y a eu la liberté il y a eu les événements majeurs de Charlie Hebdo, les attentats contre Charlie Hebdo, avant les caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Bon, il y a un volet là de défense de la liberté d'expression qui revendique le droit au blasphème, qui pour moi, à travers cette revendication de la liberté d'expression, se transforme en injonction faite aux minoritaires d'accepter des humiliations qui sont exprimées publiquement via des supports de presse. Et je le dis là sur les caricatures de Mahomet, je pense la même chose sur les questions de sexisme. Moi, vraiment, quand je regarde beaucoup d'illustrations de Charlie Hebdo, je suis effarée par le degré de sexisme de ces illustrations. Et je vois bien quand on les dénonce, on s'entend dire non, c'est la liberté d'expression. Ben, il y a un moment, je crois que là, la liberté d'expression ne doit pas être confondue avec l'injonction à accepter l'humiliation et que le droit à se sentir respecté doit être aussi entendu. Alors là, il y a des choses hein, qui sont compliquées à gérer, mais qui me semblent importantes à travailler autour de cette question de la liberté d'expression. Du temps que, sous couvert de lutte contre le terrorisme, déclenché à partir des attentats de Charlie Hebdo, et tous ceux qui se sont produits ensuite, on a des atteintes à la liberté d'expression par ailleurs, qui sont, par exemple, quand des associations dénoncent des violences policières, elles vont être accusées, par exemple, de faire le lit de l'islamo-gauchisme, ou quand l'UNEF organise des ateliers en non-mixité de personnes racialisées, elle se retrouve aussi accusée de faire ce lit de l'islamo-gauchisme et donc du terrorisme potentiellement, et on en arrive à des décisions gouvernementales de dissolution de ces associations, de demande de dissolution d'un syndicat, d'interdiction d'organisation de manifestations qu'on n'avait quand même pas vu jusqu'à présent. Hein. La demande de dissolution, quand je dis jusqu'à présent, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. Demander la dissolution d'un syndicat, c'est quand même pas rien du tout. Donc voilà, là il y a un champ de travail très, c'est pas simple à mener, hein, mais il y a un champ de travail et de réflexion important à conduire. Et je m'arrête là parce que je crois que j'ai déjà été trop longue. Voilà, merci à vous.
Oh. Vous m'entendez normalement ?
Ouais. C'est bon.
Désolé, Christelle, je ne savais plus comment t'arrêter.
Oh, pardon. Ah ben, prendre la parole et dire t'as déjà dépassé ouais. Ton temps, c'est.
Bah oui, j'ai envoyé des textos discrètement. Merci beaucoup. Hein,
c'est ah mince, bon. Ouais, non, c'est
de... Du coup, on va juste un petit peu décaler le. Là, Olivier, donc un petit une prise de parole d'Olivier, et ensuite on fera une pause de 10 minutes. Donc c'est parti.
Ok. En tout cas, merci beaucoup à Mireille et Christelle. Je suis heureux de les retrouver. On a été un temps tous les trois ensemble à l'INED. Donc, oui. C'est un peu difficile d'intervenir après elles parce qu'elles ont tout dit d'une certaine façon et bien dit, franchement. Ce que je voulais peut-être en prolongement et peut-être mise en perspective de ce qu'elles ont dit, peut-être réfléchir en fait comment la situation elle peut aussi, de certaine façon, nous rendre optimistes du point de vue de la raison et de l'action. Il me semble que là on est dans un moment, et je crois que ça a été dit hier, c'est-à-dire un moment de frottement. On est dans une évolution paradigmatique, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans en fait, on n'avait pas les cadres conceptuels que l'on a aujourd'hui, à la fois du point de vue des sciences humaines et sociales, à la fois du point de vue de l'historiographie, c'est-à-dire en fait, on a aujourd'hui une connaissance des fondements historiques en fait, de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On n'avait pas non plus en fait, des éléments, le socle juridique que l'on connaît aujourd'hui avec toutes ces évolutions. Et il me semble qu'aujourd'hui, c'est assez, caractéristique en fait cette situation de crise hein, lorsque Christelle en fait pointe aujourd'hui ben, tout ce débat autour de l'islamo-gauchisme hein, comment les agités du bocal qui soient ceux de l'Observatoire du décolonialisme ou du printemps républicain finalement vont chercher à disqualifier les travaux des sciences sociales, et je le soulignais hier, c'est en fait ils ne s'appuient jamais sur les sciences sociales. Et ça, c'est assez saisissant parce que au mieux, ce sont des personnes qui étaient anciennement en situation de recherche, donc qui ont produit des travaux historiquement, mais qui en fait ont élaboré plutôt dans des paradigmes antérieurs en matière d'antiracisme ou en matière d'intégration, ou en fait rien de tout ça. Assez souvent, en fait, on a des positions qui sont des positions en fait où en fait ils produisent des essais. Et non pas des travaux de sciences sociales, donc ils ne vont pas étayer en fait, dans le débat qui pourrait avoir lieu. C'est en fait en démocratie, effectivement, il est toujours intéressant, nécessaire de confronter les points de vue. Or, ce n'est pas du tout ce que l'on observe aujourd'hui. En fait, on a une opération hein, de chasse aux sorcières, de disqualification systématique en fait, des travaux des chercheurs en sciences sociales. Et derrière, eux, en fait, effectivement, la disqualification de la reconnaissance en fait, des problèmes portés par les personnes concernées. Et en fait, j'ai envie d'être optimiste par rapport à ça, parce que le fait même de la violence en fait, dont ils peuvent faire preuve, me semble-t-il, en fait, aussi assez significative du fait qu'aujourd'hui, donc ça ne s'arrête pas de dire ça, en fait, ben oui, l'université, elle est gangrénée, etc. Effectivement, ben, nous, on fait notre travail, on a produit des sciences sociales, on enseigne, on partage avec nos étudiants, nos étudiantes, qui parfois sont aussi des personnes qui sont concernées par des problèmes de sexisme, qui sont concernées par des problèmes de discrimination à caractère raciste, qui sont concernés par les problèmes d'homophobie. Donc, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, ça doit nous rendre optimistes, dans le sens où, effectivement, on est effectivement dans un moment, dans un tournant, alors qu'effectivement, il est compliqué, hein, les changements de paradigme, c'est aussi l'effondrement, en fait, de modèles de croyance. Et de mon point de vue, il y a véritablement un effet de génération. Alors, Christelle et Mireille sont un peu plus jeunes que moi, hein, mais on a en fait aussi en fait une nouvelle génération. Et je pense que dans le travail qui a été présenté hier par Julien Talpin avec l'équipe qui l'a entouré, donc on a une nouvelle génération de chercheurs. C'est aussi le travail qu'a présenté Ekaterina Panukina, et donc dans le cadre de son travail, en fait, on a aujourd'hui en fait les ingrédients en fait aujourd'hui pour finalement mieux comprendre donc ce sont des vrais outils. Et si vous voulez, lorsqu'on regarde en fait, si on prend par exemple la définition de ce que recouvrerait finalement l'idée d'islamo-gauchisme, en fait c'est très vaste, hein, parce que tour à tour les personnes qui défendent cette position là à la fois bien vont dire en fait que ça, ils remettent en cause, comme l'a souligné Christelle, la question du genre, hein, la question du racisme systémique, la question même des discriminations. Et en fait, il y a vraiment cette idée de venir disqualifier finalement ce que sont en fait des notions et des concepts à visée émancipatrice. Hein. Donc, effectivement, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ben, la coopération, la coalition avec les centres sociaux fonctionne, parce qu'effectivement, ben, on est sur un agenda commun qui est de savoir finalement comment on peut permettre aux personnes hein, de se défendre dans des voies émancipatrices. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, ce qui est compliqué, alors ça a été souligné hier, ça a été souligné encore ce matin par Mourad, si vous voulez, c'est la difficulté que l'on a aujourd'hui seulement à ce que les institutions s'approprient ces notions. Donc ça a été dit aussi d'une certaine façon par Julien Talpin. Si vous voulez, c'est assez paradoxal parce que finalement les institutions ne sont pas à l'écoute en fait du travail des sciences sociales, mais beaucoup plus en fait de ces personnes qui sont en position d'essayiste. Alors même si effectivement ils ne font plus de travaux de sciences sociales, ils fonctionnent véritablement comme ce que Gramsci appelait des intellectuels organiques, c'est-à-dire en fait ils pensent comme le pouvoir et avec le pouvoir, et seulement de cette façon-là, effectivement, ils ne sont pas du tout dans des positions critiques. Et ça, effectivement, je pense que c'est un enjeu fondamental aujourd'hui d'arriver à faire en sorte que ces travaux des sciences sociales et toutes les expérimentations qui les accompagnent, parce qu'en fait, les expérimentations, en fait, elles ont été rendues possibles aussi par ces cadres conceptuels, c'est-à-dire dans les coopérations qu'on a pu conduire depuis des années au sein des centres sociaux. Vous avez cité aussi Saïd Abouamin, bien entendu. Et si vous voulez, ça me paraît vraiment important parce qu'aujourd'hui, on est véritablement au-delà de la question même des discriminations, me semble-t-il, dans un enjeu fondamental en fait en matière de démocratie. Et là, je voudrais revenir en fait sur ce que disait John Dewey, hein, donc John Dewey qui a été un des inspirateurs à la fois du community organizing, de la notion de développement de pouvoir d'agir. Si vous voulez, John Dewey, il dit la démocratie, elle est radicale et elle est créatrice. Et c'est vrai que par rapport à ce qui a été dit encore ce matin, vous avez dit, mais finalement, ben, on teste et vous testez des choses vraiment, je reprends la notion de pépite, des choses formidables. Et je pense qu'il faut en vraiment en être convaincu et continuer. Guillaume disait, ben oui, en fait, on teste. Et, donc, et si vous voulez, ça, c'est vraiment dans la théorie de John Dewey, c'est vraiment la question de l'expérimentation. Et en fait, l'expérimentation, en fait, c'est une modalité en fait, pour fabriquer de la démocratie. Et si vous voulez, c'est vraiment important en fait, de bien avoir ça en tête. Donc, effectivement, la question, c'est à quel moment en fait, on arrive à monter en généralité. Donc, ça, c'est vraiment la question clé. Hein, c'est-à-dire comment, à un moment donné, les institutions ben, en fait, redeviennent attentives. Elles l'ont été. C'est vrai que par rapport à ce que disait Mireille aussi, en fait, il y a eu des moments où en fait, il y a eu des ouvertures en termes de politique publique où les institutions étaient un peu plus attentives aux évolutions dans le champ des sciences sociales. C'est moins le cas aujourd'hui. Donc, effectivement, bon, la question, c'est comment on arrive à le reconstruire. Et effectivement, je pense que c'est aussi la question des alliances entre ben, les intermédiaires des politiques sociales que vous êtes, les personnes concernées et ben, les chercheurs en sciences sociales humaines que nous sommes. Et je pense qu'il y a vraiment à réfléchir à cette question-là. Comment arriver à monter en généralité, comment sortir effectivement d'une simple logique d'expérimentation. Et ensuite, je voudrais apporter un dernier point, parce que je ne voudrais pas être trop long et vraiment laisser la place par la suite à l'échange. Sur la question de la police, il y a une autre forme d'alliance. Effectivement, ce n'est pas le cœur d'action des centres sociaux que d'avoir des approches judiciaires. Je pense que c'était même, d'une certaine façon, une difficulté, la façon dont la politique publique a été amenée dans les centres sociaux par rapport à des approches juridiques. Mais sur la question que soulignait tout à l'heure Christelle, sur la question de la police, il y a aujourd'hui une action de groupe, donc je voudrais vraiment y faire référence, contre les contrôles policiers discriminatoires, qui est portée aujourd'hui par 6 ONG, que sont, alors je parlerai pas, j'ai un accent anglais terrible, hein, donc contrairement à Mourad qui parlait extrêmement bien, donc où en fait on a Amnesty International, Human Rights Watch, Pas à Pas Belleville, RAGI qui est une association villeurbanaise, et Open Society Justice Initiative, qui sont là aussi en fait dans des formes d'alliance avec des avocats, je pense notamment à Slim Benachour, des avocats très connus, je pense à Antoine Lioncan, et notamment aussi notre collègue de Villeurbanne, Myriam Attari, qui est maître au barreau de Lyon et qui en fait a aussi pas mal œuvré dans le réseau des centres sociaux. Et je pense que là, il y a aussi en fait une ouverture, c'est-à-dire que paradoxalement, contrairement à il y a 15 ans, en fait, le droit est du côté des personnes qui sont confrontées aux situations de discrimination, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Donc, en fait, aujourd'hui, en fait, on a un droit qui est assez fortement élaboré, la possibilité de construire des actions collectives. Et c'est vrai que des actions de groupe, et si vous voulez, il me semble que de ce point de vue-là, même si les centres sociaux n'ont pas vocation, me semble-t-il, à porter ce type d'initiative, par contre, qu'ils puissent en être les relais me paraît assez fondamental. Je pense que le travail de réseau, le travail fédératif, la force d'une organisation comme la vôtre, bon, ben là, on voit simplement sur l'Île-de-France, hein, il y a tous les départements qui sont représentés. Voilà, on peut imaginer donc, à l'échelle nationale ce que ça pourrait produire. Parce qu'effectivement, je disais, en fait, je suis un véritable globe-trotteur, hein, je passe de région en région. En fait, ben, ces situations de contrôle au faciès, de contrôle policier, en fait, c'est partout. Tout le temps. En début de semaine, j'étais à Nice. La semaine prochaine, je vais à Nantes. Et chaque fois qu'en fait, du coup, je vais sur les territoires, en fait, lorsqu'on a des tours de table, à un moment donné, cette question vient. Et donc, ça me paraîtrait vraiment important, intéressant, même si, me semble-t-il, cette logique est une logique judiciaire, qui est une logique assez frontale, donc est portée par des organisations et notamment des très grosses ONG, qui ont aussi les reins solides hein, pour pouvoir ben, du coup, se confronter à une institution telle que celle de l'institution policière. Il me semble vraiment intéressant aussi que dans ce type d'action, le réseau des centres sociaux puisse en tout cas un relais important. Voilà ce que je voulais dire hein, pour ne pas prendre trop de temps. Donc, résolument optimiste, hein, même si la situation parfois peut nous rendre pessimiste. Merci pour votre attention.